quand même dans l'actualité, c'est très clair. Mais oui, justement, c'est une autre manière de jouer ce match. Je ne sais pas très bien comment présenter votre travail, Jean-Pierre Ribonnet, dire que ça fait un certain temps que vous improvisez ensemble.
On est amis depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années, et depuis 2 ans, je rencontre autour d'improvisation, je crois que c'est une performance entre des textes lus, et René qui joue des instruments comme on peut. Qu'est-ce que tu en dis, René ? Ce sont des petites performances qu'on essaye de faire dans des lieux les plus divers possibles. Voilà.
Ouais. Et dans des tas de lieux incongrus, donc et, la boutique. Et bien voilà, à plus. On va
merci Anne de ton invitation. C'est heureux d'être ici. Perdu dans une scène dont je crois reconnaître le décor, mais pas les répliques. Je cherche Asapho Johnson. Je me sens comme ce chasseur dont petite tante me racontait l'histoire quand j'étais enfant. Un homme parti à la chasse un matin. Il ne prit rien de la journée. Le soir venu, il vit un oiseau sur une branche. Il banda son arc, visa l'oiseau, mais son geste fut interrompu par le chant de l'oiseau. Un chant si beau qu'il resta cloué à l'écouter. La durée de la scène égale 1 minute et quelques secondes. Puis, l'oiseau s'envola et le chasseur eut l'impression de se réveiller d'un très grand rêve. Ensuite, il rentra chez lui et ne reconnut pas son quartier. Là où il y avait son quartier, ne reconnut pas sa maison. Là où il y avait sa maison, ne reconnut personne. Là où il y avait sa famille, courut vers ses amis, ne reconnut ni leur maison, ni leur champ, ni leurs animaux. Fidèle. Et personne pour le reconnaître. On le regardait partout comme on regarde un homme de passage. On le conduisit chez le chef. Il se disait que le chef au moins le reconnaîtrait. Il était l'homme que le chef consultait la veille encore pour sa connaissance des pistes et son intelligence du territoire. Mais le chasseur ne reconnut ni le protocole, ni le trône, ni le chef, ni son nom, ni son entourage. Et le chef ne le reconnut pas. On lui fit répéter son nom. Et on fouilla dans la mémoire des lignages. Un vieillard se souvint alors d'un récit qu'il tenait de son père, qui le tenait de son propre père, qui avait connu le chasseur, qui répondait à ce nom et à cette description. Et qui était parti un matin, en forêt, et n'était plus jamais revenu. Où est passé le temps ? Se dit le chasseur. Où est passé le temps ? Se dit le rêve. Le décor, mais pas les répliques, je cherche Asapho Johnson. Il faut imaginer autrefois, au bout de cette rue, les échoppes de ceux qui font profession de guérir, leur boutique à médicaments. Où étaient étalés des flacons de couleur, de la poudre safran, des boulettes émeraudes, de feuilles mâchées par de vieilles dents, des racines rendant leur jus de vieillesse, des chapelets de crânes d'oiseaux, des chapelets de plumes, des chapelets de perles de Venise. Des statuettes de fertilité, des huiles parfumées au sucre de vierge et à la méniguette, des bagues pour faire baisser la fièvre. Des graines spongieuses pour lesquelles quelqu'un a dû livrer bataille avec des épineux très chers, des pattes desséchées et poilues d'animaux, des ossements rares, certains disent humains, des dents de requin, certains disent humaines. Et devant les échoppes, l'encombrement d'enseignes, le mage, Calicula, voyance les yeux dans les yeux, spécialiste du mal noir, grand guérisseur de la folie sans douleur et chercheur en sens de la vie, Madame Aloisio. Travaux d'amour occulte, diplôme de psychologie naturelle et parallèle, spécialiste des fugues. Professeur Miracle, docteur pour dames, règles douloureuses et stérilité. Eladji Camara, syphilis, choléra, chaud de pisse, spécialiste des maladies inconnues. Des ancêtres, représentant avec un réalisme volontariste des accroupissements diarrhéiques, des giclées de sang sortant des mets avant eux, le visage du malade disparaissant dans les plissements et des sillons creusés par le pinceau, mis en image mélodramatique d'une certaine échelle innommable de la douleur. On voit à présent la rare échoppe d'une coiffeuse réduite à l'enseigne au tabouret posé sur le trottoir et sur lequel un jeune homme assis se fait lisser les cheveux, la coiffeuse debout derrière lui, appliquée à masser le crâne, nuque contre nombril, les doigts de la coiffeuse pressant de petites touffes de poils mouillés, d'une main séparant les touffes de l'autre, les pressant et les entortillant, puis les défrisant, nombril et nuque se séparant, se rejoignant à nouveau. Dans le paysage pour guider les derniers dérivants que la forêt recrache par petites échappées, on peut les voir arriver jusqu'à la ligne de démarcation. Entrer dans la zone neutre entre un panneau marqué checkpoint et un autre panneau marqué checkpoint, on entend le crachin des mégaphones. Laissez passer quelques jours, il faut laisser passer quelques jours. Il faut imaginer les regards mal fagotés par un affolement contenu, une résignation aux aguets trempés depuis longtemps dans les épreuves de marche qui ont mené la plupart jusqu'ici pour la première fois depuis 10 ans.
Thank you.
des files d'hommes pourrissant sur pied, parlant une langue qui coule mollement comme lave, morve, salive et sueur. Une langue dans laquelle on finira par comprendre que l'odeur des forêts n'est plus celle des arbres. On finit par apprendre qu'une odeur, montant depuis quelques sources buboniques de la terre, dont la couleur a tourné peu à peu à la peau bouillie, avait avalé celle de la feuille verte, de l'herbe séchée et de l'humus. Une odeur qui n'est d'aucune bête, qui ne savent nommer qu'en crachant cette odeur. Il faut imaginer l'agrégat vaguement sage d'hommes et de bêtes, traquant avec avidité quelque chose encore dans le regard des soldats. Les forces de l'international neutre en stationnement dans la zone. Les forces de la protection, comme on aurait dit, de la Providence, veillant sur la ligne de démarcation qui a scindé la ville de Gloria Grande pendant 10 ans. 10 ans, mécaniquement, aussi mécaniquement qu'on a assemblé ces briques de murs, aussi mécaniquement qu'on a tissé les cercles concentriques des hauts barbelés entre Nord Gloria et Sud Gloria. Pour l'instant, je suis le suivant de la file. L'instructeur belge, sortant la sagesse africaine de son guide des sagesses du monde, édition Marabout. On peut critiquer la morsure du chien, mais on ne peut rien contre la blancheur de ses crocs.
Une fois.
On répète. On peut critiquer la morsure du chien.
Une fois.
Mais on ne peut rien contre la blancheur de ses crocs. Et on n'oublie pas qu'un fusil, quand on l'a en main, on peut tuer, c'est compris? On a compris? Dans l'édition du week-end, du moment présent, on peut lire la chronique illustrée de l'arrivée à Gloria Sud des exilés au long cours, que le journal appelle « les déplacés de longue date ». Un retour, triomphalement salué par des photographes de presse au moment où l'on atteint le dernier point de passage, l'épais mur blanc sur lequel le mot « checkpoint » a été barré et remplacé par l'inscription « Bienvenue ». Où l'on est invité à agiter les mains pendant la pause, collées contre le mur blanc, les mains qui partent alors au moment du clic et du sourire. 1, 2, 3, les mains qui partent à la cueillette des lettres. Bienvenue, se met au-dessus des têtes, où un polisson avait rajouté au revenant. Bienvenue au revenant. C'est ainsi que le peuple des quartiers appelle ceux qui franchissent la ligne pour la première fois depuis longtemps, 10 ans, une vie ou deux, 1000 vies ou 2. Je suis là. Je suis là. Je suis là, se dit le revenant, comme on parle à un enfant inquiet. Bienvenue aux revenants dans les actes de la reconstruction. Et le revenant, ainsi accueilli après la durée et la dureté des formalités, pince son costume pour rire. Tel petit pays. La bâtisse, le style néocolonial, les couloirs interminables ornés de têtes couronnées et de poitrines gonflées par la prothèse des décorations. Semblant veiller sur la gloire définitivement lessivée de l'établissement qui compta parmi ses clients, en un temps bien lointain, des grands reporters, des téléphilosophes, des champions du sport, des académiciens, mais surtout de hautes bienveillances qui arrivaient du monde entier, des majestés, des consuls, des proconsuls, des seigneurs, des cheiks, des sénateurs à vie qui venaient ici chasser le gibier et s'entretenir officieusement des affaires publiques. Un temps où des hélicoptères transportaient jusqu'au territoire de chasse des sommités au nom exotique venus de France ou d'Arabie pour tirer sur des animaux rabattus depuis les nuages à travers les arbres fumants de soleil, pour tirer par-dessus nos têtes avant de s'en retourner à leur trône, couronne et dominion avec le genre de trophée que méritent les hiérarchies venues honorer la beauté giboyeuse de notre végétation. La radio a explosé sans prévenir. On entend deux voix, une femelle et une mâle. Bien dormir n'est pas un rêve impossible. Aucun autre lit n'est aussi reposant que le lit de Lilo. Les voix glissant sur le coussin feutré d'une musique des sphères, un disco spatial de Donna Summer, truffé de geignements de corps célestes. Oh love, love, we love you. Le lit de Lilo, baby. Matelas en latex naturel. Ah. Sur matelas pure laine de mouton. Oh. Love. To love. L'impression typique du nid baby, le lit de Lilo, sans composants métalliques, produits chimiques ou synthétiques. Oh là, 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 là. Le lit de Lilo baby est un lit naturel suisse. Je me souviens du bon bruissement des hélicoptères au-dessus de nos têtes d'enfants rendus turbulents dans la salle de classe, soudain inapaisés, des enfants se précipitant dans la cour, énervés comme des chauves-souris par les hélicoptères transportant de haute bienveillance, majesté, consul, proconsul, seigneur, chef, sénateur à vie, dans la position du tireur à lunettes accroché comme un acteur américain au flanc de l'hélicoptère et tirant dans la flore. Merde ! Merde se dit revenant. Regardant, trembler la bouteille d'alcool que sa main a manqué de renverser. Quelqu'un a frappé à la porte. Non pas gratté, comme sont les petites revendeuses d'amour, mais cogné sans malice. Frère ami, le bourdon de la voix. Frère ami, moi, stabilisant enfin la bouteille, l'éloignant de la porte, de l'affiche placardée ou le nombril de Miss Togo. Trace un mandala, me demandant si derrière chaque porte dans cet hôtel, il y a la même photo de Miss Togo, ou si de chambre en chambre on passe de Miss en Miss, chacune portant entre deux seins les couleurs et l'honneur de quelques nations d'Afrique. Frère ami, moi, me souvenant d'une année où, il y a longtemps, une vie ou deux, mille vies ou deux, à l'occasion d'une coupe d'Afrique de football, on avait baptisé les salles de classe à Gloria Grande avec les noms des pays participants. Me souvenant de notre classe qui avait la réputation d'une classe où les cancres font la loi et qui avait hérité du nom de Togo. Le bourdon de la voix à travers la porte faisait trembler le ventre de Mistovo. Frère ami. Mais il s'appelle Maïs. 16-17 ans. Il m'appelle frère ami depuis que je suis là. Il ne faut pas l'écouter. On aurait vendu des lots si je l'avais écouté. L'eau de médicaments, l'eau de talismans, porte-clés, l'eau de logiciels piratés en Inde, l'eau de quatre roues pour la moitié du prix d'une. Frère ami. Il ne faut pas l'écouter. C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes besoins? J'écoute les besoins, frère ami. C'est un don de naissance. Le bourdon de la voix à travers la porte. Tes besoins, c'est mon rayon. Il n'y a pas gris-gris. Je jure sur ma personne, c'est un don de naissance. Laisse-moi te dire. Laisse-moi entrer. Il m'avait déjà dit que son vrai nom n'était pas Maïs, mais Gavroche. Son nom de Maki. Voilà son vrai nom. Gavroche. Il avait déjà compté la moitié de sa vie de rebelle passée sous les ordres d'autres rebelles, d'abominables aînés qui s'appelaient commandants. Qui se retranchaient dans la feignantise de leur soulerie, d'où ils transpiraient de contraintes, de règles, d'ordres, de démence, de scénarios d'humiliation sophistiqués qu'ils ordonnaient depuis les entrailles de leur QG. Maïs dit, depuis leur cul et leur point G. On le voit dire ça de belle manière avec des gestes de morpion fâché. Un reportage dont il m'avait déjà montré la vidéo. On le voit jouer à champ contre champ avec un journaliste qui lui demande dans la foulée de raconter la première fois. Ah ah, la première fois, Gavroche. Et on pourrait croire à lire l'excitation dans le regard de l'intervieweur qu'il parlait d'une expérience sexuelle. La première fois, comment on se sent quand on tue quelqu'un pour la première fois? La caméra montre le visage du grand reporter pendant qu'on entend Maïs répéter la question comme s'il avait mal retenu. Tu veux savoir comment? Comment on se sent? Comment? C'est-à-dire, je veux que tu me donnes tes sentiments. Je suis rentré au camp avec les autres combattants. Les sentiments que tu avais. J'ai disparu dans le sommeil, dit la voix de Maïs. Et pendant que la caméra serre au plus près les yeux du grand reporter, baignant dans un archétypale commisération, la voix continue. Je me suis réveillé. Quelqu'un m'a dit bonjour, comment ça va? J'ai répondu, ça va bien, merci. Et je n'ai pas reconnu la voix qui sortit de ma gorge. Ma voix ne m'appartenait plus. Voilà l'expérience. Voilà mes sentiments. Je jure sur ma personne, on ne reconnaît plus sa voix. Pendant quelques semaines pour certains, des années pour d'autres, pour moi, ça dure encore. La voix qui te parle n'est à personne. de saisir la familiarité des syllabes. J'ai d'abord entendu des sons autonomes se confondre avec les bruits environnants, des sons enveloppés d'une intimité brutale. Que vas-tu faire de ton retour? Quoi? Que vas-tu faire de ton retour? Tu n'oublies pas, nous sommes pays en guerre. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà entendu cette phrase depuis que je suis là, se dit le revenant. Tu n'oublies pas, nous sommes pays en guerre. Imaginez qu'il y a longtemps, 10 ans, mille vies ou deux, il suffisait de passer la fin du jour à la porte de vieille ville pour côtoyer la fête. Vu d'aussi loin qu'aujourd'hui, tout était fête dans les rues de ce quartier où les habitations avaient poussé autour des dernières traces d'une brousse disparue. Un entrelac d'anciennes pistes sauvages entraînées dans le défilé accidenté de 1000 petites cours. Il faut imaginer la haute palissade en tôle ondulée sur laquelle on pouvait lire « Au couvent des Vierges folles, bar d'Ancy ». C'était là que nous nous retrouvions. Mozaya, Asafo Johnson et moi, pour cueillir l'inspiration dont nous remplissions en même temps que de la gnôle populaire et écrire des scénettes sur l'augmentation du prix du pain ou sur les nouvelles lois pour lutter contre la rumeur. Les gens disaient, une occupation dans la vie, ce n'est pas ça que j'appelle une occupation dans la vie. Nous avions fondé tous les trois le théâtre des pièces à conviction. Cette appellation de brigade désignait l'irruption calculée d'une douzaine d'énergumènes dans le bus, les gares routières, le parc floral, les marchés de nuit, improvisant des joutes oratoires et jouant des sketchs que nous venions composer ici. Les gens disaient, ça, si c'est ça que vous appelez une occupation dans la vie, ça. Asafo Johnson disait qu'il avait le temps de décider s'il allait faire du cinéma ou de la politique, qu'il hésitait encore entre devenir pape ou acteur comique. Des interrogations profondes, nous ne retenions qu'une gravité amusée. Être ou ne pas être, qui dans le jeu des statues, être ou ne pas être, quoi dans le jeu des rôles, être ou ne pas être, comment dans le jeu des simulacres, être ou ne pas être, ou sur la scène des opportunités où les simulacres font commerce. Nos discussions étaient des épreuves de fatigue, des combats au finish, où il fallait lancer du tac au tac une citation contre une autre citation, faire ricocher le nom d'un grand auteur contre le nom d'un grand auteur, jusqu'au moment où nous ne savions plus dire qui a gagné, qui a perdu, qui a eu raison, qui a eu tort dans ce combat de titans. Shakespeare, Voltaire, Wilhelm Reich, Amadou Ampateba, le Bouddha, Aimé Césaire, Bob Dylan, Saint-Augustin, Mishima, Katel Yassi, dont nous n'aurions été après tout que les bras armés de situation. Je me souviens des mains de Mozaya, farfouillant dans ses vêtements, à la recherche de ses carnets où les citations étaient recopiées avec des encres de différentes couleurs, tassées en vrac, dans le grillage régulier de la feuille, protégées chacune par la sentinelle rouge du liséré tracé au feutre. Mozaya ne lisait pas les livres. Il entrait dans les livres, fouillant. repassant de coin en coin, comme un botaniste herboriste dans la touffeur d'une forêt vierge. Il lisait dans les livres, comme on dit, dans la fumée. Il disait, on n'entend pas toutes les voix en même temps dans la même histoire. Il disait qu'à un commencement, il y a ceux qui avaient les terres et ceux qui avaient le livre. Ceux qui avaient le livre dirent à ceux qui avaient les terres. Dans le livre, il est écrit « mes frères, fermons les yeux et prions. » On ferma les yeux, on pria. In seculé, seculorum. On ouvrit les yeux et quand on les ouvrit, ceux qui avaient le livre avaient les terres. Et ceux qui avaient les terres avaient le livre. Et si ces terres valaient bien un psaume, le sous-sol valut bientôt des tomes. Et des tomes qui arrivèrent en français, en américain, en arabe classique, en russe, en chinois. Et dans ces livres, il est écrit « mes frères, fixons l'avenir ». On fixa l'avenir jusqu'au trou du bilan. Et ceux qui avaient le livre avaient entubé nos morts jusqu'au manganèse. Et ceux qui avaient les terres, il leur restait le livre, où il est écrit « mes frères, mourons ». Et ceux qui avaient les forêts sortirent des forêts et on alla mourir sur de lointains champs de bataille. Et quand les fantômes en compagnie des survivants revinrent dans leurs forêts, ceux qui avaient le livre avaient les forêts et ceux qui avaient les forêts avaient le livre où il est écrit « mes frères, dansez ». C'était peu avant l'installation de la ligne de démarcation. On apprenait que dans le sud de Gloria Grande, l'heure était aux gestes de provocation, de plus en plus fréquents. Surtout au quartier Lamantin, où Molzaïa vivait encore, où il avait vu le jour. Son père, Jamal Fathed Zambi, était un Américain de souche africaine et de confession mahométane, black muslim, et se disait aussi un peu Cherokee du côté de sa mère. Arrivé ici pour la première fois avec un groupe de voyageurs américains en pèlerinage sur l'ancienne route des hommes esclaves que la mode des commémorations et le succès du tourisme consciencieux avait fait rénover. Il était reparti puis revenu pour cause de nostalgie identitaire, puis reparti puis revenu sans aucune cause à part s'installer au quartier Lamantin où vivait une communauté de pêcheurs adorateurs d'un empereur d'Éthiopie dont ils attendaient la résurrection glorieuse. Artella, qui fit la connaissance de celle qui sera la mère de Montoya. Une femme qui vivra assez longtemps pour que l'enfant atteigne l'âge d'entendre, de sa bouche à elle, qu'un jour, après leurs ébats qui avaient lieu dans l'océan, l'homme qui sera son père, Kamal Fat-El Zambi, s'était éloigné, brasse après brasse, comme d'autres allument une cigarette après l'amour. Il n'était pas revenu avant sa naissance, ni après. Il n'était pas revenu à ce jour. Le monticule et mis le feu, puis s'en était retournée avec l'enfant. Et ensuite, elle avait mis les disques que l'homme avait rapportés d'Amérique. Les disques qui lui faisaient écouter au réveil autrefois. Who's that woman walking? Tous ces disques qu'elle n'avait plus mis depuis. Who's that woman walking? Depuis la fin des temps. Qu'elle se souvint qu'elle n'avait eu aucune berceuse aux lèvres depuis que l'enfant était né. Who's that woman walking? Toutes les voix en même temps dans la même histoire. Voilà ce que disait le père à ces moments-là où il se tenait debout, au zénith de l'insomnie, entendre des voix, des émanations fossiles dans le chant présent. Must keep.
Must keep on walking until I find me some place to go. Must keep on walking until I find me some place.
Plus tard, Mosaïa, celui qui n'est encore qu'un enfant, comprendra assez la langue du père pour traduire. Il dira qu'il éclate de rire devant cette énigme. Me faut continuer le voyage jusqu'à ce que je me trouve quelque part où aller. Cette énigme du blues où la solitude, même la solitude, a la figure d'un homme délabré, à qui il reste la force d'un rire étonné devant l'absurde miracle de se voir marcher encore sur terre. C'est ce que l'enfant, quand il aura grandi, appellera le lucky blues de son père. On n'entend pas toutes les voix en même temps dans la même histoire. Et puis, autre chose, il faut dire que petite tante, il y a eu sa mort. Ma parente, la plus proche au monde, qui m'avait élevé comme père et mère. Et aujourd'hui encore, quand je pense à elle, je ressens sur la peau le duveteux et l'épée du beurre de karité. Je revois la cuvette d'eau, la vapeur, la serviette. Toute la décoction, la macération des feuilles et des racines, un peu de mousse de temps en temps, dans le repos des feuilles froissées. Elle me massait à sa façon, cette façon de faire entrer les arômes par pression sur mes os, les doigts méticuleusement sur les os du crâne. Aspérité, creux, aspérité, creux. Elle descendait un peu, quelques vertèbres de la nuque, tapotement sur les aspérités, appui sur les creux, puis frôlement à l'huile, avec des senteurs qui réveillaient le cuir chevelu, et elle me faufilait les sourcils. Et comme je pense à elle aujourd'hui, je ressens le poids de sa main sur le dos de ma main, sa main qui, un jour, avait fait glisser ma main pour m'apprendre à la plume le tracé des lettres qu'elle calligraphiait, plein et délié sur la feuille de papier, pauvre que la pointe de la plume accrochée, soulevant par endroits des fibres cotonneuses, on aurait dit des poils. Plein et délié avec la pointe de la plume, le geste délié, c'est le trait fin lorsqu'il monte sur l'arête. Le geste plein, c'est le trait appliqué du plat de la plume, en glissade vers le bas, jusqu'à ce qu'il heurte la ligne pour donner l'impulsion de la boucle du B, muscule. Et je ne mens pas quand je dis que je sais ce que ressentent les oiseaux en vol libre. Les rebelles, autre mot qui avait fait son apparition. Un mois succès depuis qu'un picto journal parisien nommé Vision de choc avait publié les photos d'un groupe de combattants autour d'un rideau fait de bois flotté et de goudron marqué Frontière. Les rebelles, dit la légende barrant les photos sur une double page, les caractères reproduisant le naïf de l'écriteau Frontière tracé à la main, mélangeant majuscules et minuscules. Et tout autour, le rang serré des shorts déchirés et rapiécés, le raffia et la liane maillant des t-shirts sans manches ou à une manche, auxquelles sont accrochées de petites gourdes couvertes de salissures nouées, appelées talismans par balles, des lunettes noires complétant la pose du combattant. Un défilé de mode trash, une parade de mannequins crades, dans quelques garages new-yorkais branchés, auraient été pareillement photographiés. Dans cette délicieuse ambiance jungle qu'on aurait obtenue grâce à l'audace inspirée d'un talentueux metteur en espace. Les fusils seraient semblables alors aux accessoires d'une comédie musicale vantant un groupe de rock au nom volontairement démodé, les rebelles. Des rebelles, croque-mitaines au nom emphatique, désormais illuminés par des flashs dans un décor de maquis. Hannibal Caton, Boto Cosa Nostra,
Ninja Tirailleur, Zeus Brigadier, Zulu Yakuza, Sergeant Pepper. On enverra quelques gendarmes sauter sur la capitale pour opérer des pillages, au bout desquels ils compléteront leur déguisement avec des perroquets. Des masques de farce et attrape, des cravates sur le cou nu, des gants d'artisans, certains attifants de perruques blondes, de tutus, de robes de mariée, des clowns s'apprêtant à faire figuration de nègres dans un tournage de 21 Congo. On l'aurait dit si tout cela n'affichait tant d'effroi et de mortalité. Il faut imaginer, c'est la mort qui s'entraîne à rire.
Ça devient pas ce que je peux dire.
Muet.
Ouais.